Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Easy French Poetry Podcast, brought to you by FrenchToday.com. This podcast is going to be all in French. I will use the 16th century poem by Joachim du Bellay, Heureux qui comme Ulysse, to thoroughly explain the vocabulary, talk about the author, and explain the poem itself. All in slow, everyday French. You will find the transcript of this podcast, as well as an English translation, on my site, FrenchToday.com, as well as much more free audio material, available exclusively on FrenchToday.com. Check out my other podcasts, French Verb Drills, to memorize the tenses of French verbs, and Classic French Tales, to improve your understanding and vocabulary. Sign up for my free newsletter and receive exclusive French tips and news. And for those on the bleeding edge, check out French Today, all in one word, on Twitter for daily exclusive tips. Alors d'abord, je vais lire le poème lentement, puis je vais expliquer le vocabulaire, vous parler de Joachim du Bellay, faire l'analyse du poème, puis le relire plus rapidement, avec une interprétation personnelle. Heureux qui comme Ulysse, de Joachim du Bellay. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme ce stuit-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douceur angevine. Explication de texte. Ce sonnet a une tournure particulière. Écrit au XVIe siècle, c'est un poème en français moyen, pas contemporain, mais tout à fait compréhensible. Une fois que l'on explique la construction, il est facile, même pour un débutant en français. Vers numéro 1. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Dans ce premier vers, c'est une forme spéciale qui est utilisée. Il n'y a pas de sujet spécifique. Qui est le sujet? Cela signifie que c'est celui qui a fait un beau voyage, qui est heureux comme Ulysse, qui lui aussi a voyagé. Ulysse est le héros de l'Odyssée. Vers numéro 2. Ou comme ce stuit-là qui conquit la toison. Ici, ce stuit-là est la forme ancienne de celui-là. Conquis est la forme au passé simple du verbe conquérir, qui signifie gagner quelque chose après une lutte, un combat. La toison est ici la toison d'or, objet mythologique, peau dorée du bélier Chrysomalos, que le guerrier Jason a récupéré. C'est de ce personnage dont parle le poète. Le sujet de ce vers est le même que dans le précédent, qui est comparé ici à Jason. Vers numéro 3. Et puis est retourné, plein d'usage et raison. Retourner signifie rentrer chez soi. Usage et raison signifie qu'après avoir voyagé, la personne a appris beaucoup de choses, aussi bien de l'expérience, usage, que des choses spirituelles comme la sagesse, raison. Vers numéro 4, vivre entre ses parents le reste de son âge. Ce vers signifie qu'à son retour, le voyageur reste avec ses parents. Pas nécessairement juste son père et sa mère, mais l'ensemble de sa famille. Jusqu'à la fin de sa vie, le reste de son âge. Ce premier quatrain est une introduction générale qui présente le sujet. Le poète explique que même celui qui a beaucoup voyagé est bien plus heureux une fois rentré chez lui. Vers numéro 5. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village ? Nous observons ici un changement de sujet. Ce n'est plus du voyageur que l'on parle, mais bien du poète lui-même, je. Il se demande quand il pourra retrouver les lieux qui lui sont familiers, mon petit village. Hélas est une interjection qui exprime la douleur, le regret. C'est le sentiment qui domine le sonnet. Vers numéro 6. Fumer la cheminée et en quelle saison ? La cheminée est l'endroit où l'on fait du feu en hiver pour se réchauffer. C'est aussi comme cela que s'appelle la partie qui est sur le toit, où l'on voit la fumée sortir. C'est de cela que le poète parle. Le vers est coupé en deux car il y a un enjambement. C'est quand une phrase est sur la fin d'un vers et le début du suivant. Il y a quatre saisons dans l'année. Elles sont chacune caractérisées par un climat et une végétation particulière. Hiver, printemps, été, automne. Vers numéro 7. Reverrai-je le clos de ma pauvre maison ? Reverrai-je est la forme interrogative au futur du verbe revoir. Je reverrai. Le clos est un champ, un terrain, entouré d'une clôture. L'adjectif pauvre signifie qu'il n'a pas d'argent. Cependant, dans le poème, il signifie à la fois que la maison est une petite maison sans rien de particulier. Mais cet adjectif peut aussi être l'expression du regret du poète, à qui cette maison manque. Vers numéro 8, qui met une province et beaucoup d'avantages. Le pronom qui est la maison. La province est une partie d'un pays. Beaucoup d'avantages est une expression ancienne qui signifie beaucoup plus. La maison, pour le poète, est donc son pays, mais encore plus que cela. Le second quatrain du sonnet met en scène le poète. Il apparaît exprimant les regrets qu'il a de ne pas être chez lui, dans sa région d'enfance. Il se demande s'il retournera un jour dans son pays. Vers numéro 9. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux. La tournure de cette phrase est spéciale. Cela veut dire « Le séjour qu'ont bâti mes aïeux me plaît plus ». Un séjour est un lieu où l'on reste. Aïeux est un synonyme du nom ancêtre. Vers numéro 10, que des palais romains, le front audacieux. Un palais est une grande résidence pour les princes, des chefs d'État. Ici, le front est un terme architectural. C'est ce qui domine la façade du palais. Audacieux est un adjectif qui signifie « oser quelque chose ». Ce vers est la suite du précédent. Le séjour des aïeux plaît plus au poète que le front audacieux des palais romains. Vers numéro 11, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Le marbre est une pierre noble avec laquelle on fait des sols, des colonnes. Elle est très utilisée au temps des Romains. L'ardoise est aussi une pierre noire qui sert à faire des toits. Le poète préfère l'ardoise au marbre, même si ce dernier est plus précieux. Ce premier tercet commence la comparaison entre l'Italie et la région originelle du poète. Il est en Italie, la France lui manque. Il prend des exemples plutôt matériels afin de décrire les deux régions dont il parle. Vers numéro 12. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin. Le Loir est un fleuve du centre-ouest de la France. Le Tibre est un fleuve italien. Gaulois, qui vient de Gaule, l'ancien nom de la France, est utilisé comme adjectif pour décrire le Loir. Latin, comme gaulois, est utilisé pour dire que le Tibre appartient à la Rome antique. Le poète nous dit qu'il préfère son fleuve français au fleuve italien. Vers numéro 13, plus mon petit liré que le mont Palatin. Comme dans les vers précédents, il y a une comparaison. Ici, entre le liré, qui est la ville natale de Joachim du Bellay, située en France, en Pays de la Loire, et le mont Palatin, une des sept collines de Rome. Vers numéro 14, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Ce dernier vers termine la comparaison. L'air marin est l'air que l'on peut respirer quand on est au bord de la mer. Douceur est l'équivalent en moyen français de douceur. Angevine est l'adjectif dérivé d'Angers, ville du pays de la Loire. Pour conclure, le dernier tercet termine la comparaison entre les deux régions en utilisant spécifiquement des éléments géographiques, les fleuves, la montagne et la ville, et enfin ce qui entoure tout cela, c'est-à-dire l'atmosphère dominante. Vie de l'auteur. Joachim du Bellay est un poète français du XVIe siècle, né en 1522 à Liré, en Anjou. Il crée avec Ronsard le groupe de poètes La Pléiade, qui souhaite éduquer les gens en utilisant la culture antique. Après une enfance triste sans parents, tous deux morts avant qu'il ait 10 ans, élevé par un frère qui le néglige, Joachim du Bellay rencontre Pierre de Ronsard en 1547. Ils ont beaucoup de choses en commun. Les deux ne peuvent pas faire de carrière militaire pour cause de surdité. Les deux étudiants découvrent leur passion commune pour l'écriture. Ils vont à Paris, au collège Coqueret, pour étudier les écrivains antiques. C'est avec d'autres étudiants qu'ils forment la Pléiade. En 1549, le groupe publie un manifeste rédigé par Du Bellay lui-même, Défense et illustration de la langue française, où ils défendent le français en opposition au latin. Le poète considère le livre comme le point de départ de la poésie française, parce qu'il traite de nouveaux genres, de vocabulaire enrichi pour dépasser l'influence de l'Antiquité. La même année, Joachim du Bellay publie un recueil de sonnets, L'Olive, qui connaît un grand succès. Son écriture s'inspire de celle de Pétrarque. C'est la première fois que des sonnets amoureux sont publiés en français. De 1553 à 1557, le poète part en Italie, à Rome, avec son oncle, célèbre diplomate. Il est extrêmement enthousiaste de voir enfin cette capitale de l'Antiquité, période qu'il a étudiée et qu'il admire. Mais sa déception est grande lorsqu'il découvre une ville en ruine où règnent la débauche et la corruption. Pendant son séjour, il écrit « Les Antiquités de Rome »,« Divers jeux rustiques » et « Les regrets », inspiré par le dégoût et l'amertume que lui inspire Rome. Tous sont publiés à son retour en France en 1558. Le succès de ses recueils permet à l'écrivain de participer à la vie intellectuelle parisienne. Le poète a des ennemis qui font de fausses accusations à propos de sa religion. Cela bloque son ascension sociale. Il a des soucis financiers. Sourd, malade, vieilli avant l'âge, Joachim du Bellay meurt le 1er janvier 1560 à l'âge de 37 ans. Sa contribution à la Pléiade a permis de renouveler la poésie française en imposant le sonnet, l'ode et l'alexandrin comme forme poétique principale, et l'amour, la mort, la fuite du temps et la nature comme thème classique. Analyse poétique. Introduction. Ce poème est le sonnet 31 du recueil Les Regrets, le plus célèbre de Joachim du Bellay. Il est écrit lors de son séjour en Italie et publié à son retour en France en 1558. Les sonnets sont tous composés d'alexandrins. C'est un poème qui est symbole de nostalgie, de déception, de tristesse. Cependant, il y a un paradoxe dans le poème. Si la grandeur romaine est célébrée, elle sert à exprimer la nostalgie du pays natal. Comment le poète construit-il cela? Nous allons voir dans un premier temps comment la construction du sonnet souligne l'opposition entre Rome et le lyré. Ensuite, nous verrons comment Rome est mise en valeur. Enfin, dans une troisième partie, nous étudierons sa nostalgie du pays natal. Première partie. Tout d'abord, il faut noter que ce sonnet a une construction parfaite. Il y a une opposition lexicale afin de souligner le contraste entre Rome et le lyré. C'est dans les deux tercets que Joachim du Bellay fait la comparaison entre les deux lieux. Les palais romains et leur front audacieux s'opposent au séjour de ses aïeux. Entre les deux expressions marbre dur et ardoise fine, il y a une double opposition. À la fois les deux pierres, le marbre est une pierre noble, l'ardoise est plutôt banale, et aussi entre les deux adjectifs. L'un évoque la solidité, dur, et l'autre la fragilité, fine. Ensuite, du Bellay compare les lieux géographiques, le Loir et le Tibre, puis le Mont Palatin et le Petit Liré. Le dernier vers et plus que l'air marin la douceur angevine souligne les divergences entre la force qui émane de Rome et la fragilité qui caractérise l'Anjou. Nous voyons comment la construction du sonnet sert à souligner le propos du poète par le vocabulaire et la syntaxe des phrases. Deuxième partie. La tonalité épique qui célèbre les exploits d'un héros du poème sert à exposer la culture latine et sa mythologie. Du Bellay présente de grands voyageurs qui affrontent de nombreuses épreuves. Ulysse d'abord, qui met plus de 10 ans à retourner chez lui, puis Jason, celui-là qui conquit la toison, qui vit une grande aventure où les dangers se succèdent. Ces deux personnages ont quitté leur patrie pour la gloire. Ils sont l'illustration du mythe du voyage, cher aux humanistes. En effet, le voyage est le symbole de la quête de la sagesse. Aussi, la culture latine est mise en valeur par la description de Rome. Le poète évoque la majesté de la ville. Palais et front audacieux montrent la gloire de Rome. Cependant, la froideur de la ville est inséparable de sa gloire. Marbre dur évoque à la fois la dureté et le côté hautain de la pierre. L'air marin, qui fait référence aux héros mythiques qui voyagent beaucoup en mer, mais aussi au vent, qui évoque ici l'inhospitalité. De cette façon, nous voyons le paradoxe que construit le poète. Il fait l'éloge de Rome, de cette culture latine, mais c'est pour souligner le manque de chaleur de cette ville. Troisième partie. Dans ce sonnet, c'est la nostalgie du pays natal qui est le thème dominant. La mélancolie exprimée par « hélas » donne le ton au poème. L'exil provoque la souffrance de Du Bellay. La répétition des adjectifs possessifs « mon »,« ma », »,« mais » montre le côté simple et familier de la région natale de l'écrivain, l'Anjou. Joachim du Bellay propose la modestie et la simplicité. Tout est fin, petit, pauvre, en opposition à la grandeur de Rome. La famille est l'une des valeurs mises en évidence dans le poème. Tout ce qui évoque la région de l'auteur est rattaché à la famille. Cheminée, clos, maison. C'est parce qu'il pense plus à son retour qu'à son voyage que le poète est nostalgique. C'est le sujet du premier quatrain. Si on voyage, on ne peut être heureux que si on rentre chez soi. Le doute du retour au pays est exprimé par les nombreuses questions que du Bellay se pose. Quand reverrai-je ? Vers numéro 5. Reverrai-je ? Vers numéro 7. Le poète est loin de chez lui et veut y retourner. Ainsi, nous voyons de quelle manière du Bellay exprime la nostalgie de son pays à travers les détails de la vie angevine. À tout ce qui se trouve dans la grande ville de Rome, le poète préfère toujours la modestie de son pays et le réconfort de ses proches. Conclusion. En conclusion, ce sonnet si célèbre de Joachim du Bellay raconte une histoire plutôt banale, celle d'un homme exilé qui souffre du mal du pays. La manière dont il met en scène cela est originale. Il fait une belle description de la ville de Rome qu'il a tant admirée durant ses études. Il la montre comme une capitale impersonnelle, malgré la grandeur de la culture latine. Il utilise le contraste pour célébrer la simplicité de son village. Les regrets de sa région deviennent bientôt un chant à la gloire de son pays. Il faut noter la beauté, la perfection du sonnet, la rigueur de sa forme, qui sert un thème intemporel, la sensation de l'exil. Voilà, maintenant je vais relire le poème de façon plus rapide. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme ce celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Liré que le Mont Palatin. Et plus que l'air marin la douceur angevine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un autre poème. This Easy French Poetry Podcast was brought to you by FrenchToday.com. Listen, learn, explore today's French language.